Et en studio pour débattre ce soir, Eugénie Bastier du Figaro. Bonsoir Eugénie.
Bonsoir.
Et Alyosha Waldelazowski de L'Express. Bonsoir Alyosha.
Bonsoir.
Alors je vous propose de commencer par l'essai massif de Marc Weitzman, Un temps pour haïr, publié chez Grasset. L'auteur est écrivain et journaliste. Il travaille depuis plusieurs années ce matériau brut qu'est le Monde Post 11 septembre, interrogeant en romancier la résurgence de l'antisémitisme dans Quand j'étais normal et les attentats en essayiste dans Notes sur la terreur. Un travail qu'il poursuit d'ailleurs à la radio, puisque Marc Weitzman est producteur depuis cette année de l'émission Signe des temps sur France Culture le dimanche. Alors Un temps pour haïr se penche, comme son titre l'indique, sur une époque, la nôtre, dans laquelle on assiste sidéré à la résurgence de la haine, dont la France serait le laboratoire. C'est le pays qui a été le plus frappé ces dernières années, à la fois par les attentats islamistes, par la recrudescence de l'antisémitisme et par la résurgence d'une extrême droite antimoderne, même si on échappe encore à la victoire des populismes. C'est pour comprendre ce paradoxe que l'auteur s'est plongé dans les écoutes des services de police, les audiences des premiers procès terroristes. Il en a d'ailleurs couvert un certain nombre pour la presse et a rencontré les familles de djihadistes, mais a aussi mené une enquête intellectuelle au cœur de ce qu'il appelle la galaxie rouge-brune. Cette façon de tenir ensemble les deux bouts de la haine, qui se rejoignent tout de même dans le complotisme et l'antisémitisme, fait de ce livre un objet assez complexe qui parvient à échapper à certains moments au manichéisme qui s'est emparé depuis quelque temps de ce sujet qu'on peut dire miné. C'est probablement pour ça qu'il est toujours en lice d'ailleurs pour deux prix importants, à la fois pour le prix Médicis et pour le prix Renaudot. Alyosha Waldelazowski, ce livre est difficile, je le disais, à résumer en quelques mots. Il faut peut-être d'ailleurs commencer par sa forme plutôt que par son fond, une galerie de portraits entrecoupés de réflexions sur l'histoire et notamment sur cette histoire compliquée de la France avec son empire et avec l'Algérie.
Oui, Raphaël, vous avez bien expliqué effectivement le projet, le propos du livre, qui est une forme d'enquête sociologique et historique pour remonter finalement au motif profond des questions effectivement qui font de la France effectivement, on va parler tout à l'heure de l'Amérique en miettes, mais ici peut-être une France en miettes, puisqu'elle est effectivement victime du terrorisme, victime de la terreur, de la haine et de la montée de l'antisémitisme. Et donc il y a un dispositif très intéressant dans la narration presque que fait Marc Weitzman, je pense qu'il serait pas tout à fait contre ce terme, c'est-à-dire qu'il va raconter à la fois une série de portraits, notamment par exemple de jeunes, pour essayer de comprendre comment le djihadisme se saisit finalement de jeunes à la dérive. Donc on a effectivement une série de portraits qu'on peut connaître, puisqu'on les voit aussi dans la presse ou dans les études qui sont consacrées à cette question. Donc avec une dimension sociologique et psychologique qui frappe effectivement une partie de la jeunesse en déshérence et sur cette question dont vous avez parlé aussi de l'antimodernité. Mais là où Marc Weitzman prolonge et va plus loin, c'est qu'il essaie aussi, il apporte aussi une analyse géopolitique, une analyse historique, qui remonte en fait finalement au 21e siècle. Il fait une sorte de traversée du 21e siècle et même évidemment en remontant avant à la guerre d'Algérie ou à toute une série évidemment.
Et même au 19e siècle, la colonisation de l'Algérie.
Voilà, donc il fait
même aux Lumières.
Il fait effectivement une série comme ça rétrospective d'épisodes de l'histoire, mais pour apporter au fond après une réflexion sur aujourd'hui, comment comprendre justement aujourd'hui. Et je pense que c'est l'objectif du livre, c'est-à-dire qu'il va apporter au fond une réflexion politique, en visant aussi certains responsables politiques, Bernard Squarcini par exemple, qui effectivement avait développé la thèse du loup solitaire et du fait de ne pas effectivement associer par exemple l'acte terroriste de toute une série effectivement de réseaux et de liens d'organisations terroristes qui expliquaient et permettaient d'organiser ce type effectivement d'atrocité ou de violence. Et donc il fait aussi une lecture, souvent il dit « rien n'a été fait ». Où les choses sont graves lorsqu'elles deviennent graves lorsqu'elles le sont déjà. Et il essaie quand même d'expliquer des séquences, parce que je pense qu'il intéresse, oui, il y a ces rétrospectives historiques, mais les séquences, par exemple, entre 2012, les attentats de Montauban et de Toulouse, ensuite les années 2015 et jusqu'à aujourd'hui, et il essaie d'expliquer aussi les ratés politiques et l'enchaînement de liens avec justement la montée de l'extrême droite, le lien avec l'antisémitisme, et ça donne effectivement une lecture très très riche de notre situation.
Eugénie Bassi, parce que que le point de départ de ce livre, c'est d'abord une série d'articles pour la revue américaine Tablet Magazine sur les violences anti-juives en France. Marc Weitzman commence notamment après les attentats Mohamed Merah, en effet, à l'école Azatora à Toulouse en 2012. Et il est rattrapé, en quelque sorte, par les attentats de janvier puis de novembre 2015.
Oui, et j'ai trouvé très intéressant dans ce livre, en effet, le récit de l'histoire, j'allais dire immédiate, qu'il fait, c'est-à-dire des 10, 15 dernières années, même des 20 dernières années, puisqu'il commence par rappeler aussi la première vague de terreur en France en 95-96, avec le gang de Roubaix, où il cite évidemment Jean-Louis Debré qui disait « ça n'a rien à voir avec l'islamisme », donc déjà une forme de déni. L'attentat manqué devant une école juive de Villeurbanne en 95, mais aussi quelque chose que j'avais totalement oublié, par exemple, en novembre 2003, le meurtre de Sébastien Selam par Amaïs Tabou, qui avait été jugé, donc un meurtre antisémite, qui avait été, et dont l'acteur principal avait été jugé délirant au moment des faits, ce qui nous rappelle évidemment les meurtres de Sarah Halimi ou de Mireille Knoll qui ont eu récemment. Donc on voit que ce que permet de mettre en valeur ce livre, c'est le fait que ce que nous pensions être réellement novateur, en fait, était ancré dans une histoire un peu plus longue, et que cette haine antisémite avait commencé dès les années 90, à l'orée des années 2000 en France. Elle commençait déjà à monter, et c'est un livre qui n'est pas dans le déni, mais qui, à mon avis, est dans l'amalgame. C'est-à-dire qu'il y a deux mots contemporains du débat public, c'est le déni ou l'amalgame, et ce livre, à mon avis, est dans l'amalgame, dans le sens où il voudrait faire... mettre dans le même sac tous les ennemis de l'Occident libéral, à savoir à la fois les anti-modernes de droite, voire même d'extrême droite, et les islamistes, en disant qu'ils partagent les mêmes convictions, qu'ils partagent la même vision du monde. Or, je crois que c'est faux, que, par exemple, aujourd'hui, l'antisémitisme est quand même beaucoup moins présent dans les mouvements populistes qu'il ne l'est dans l'islam radical, ou même dans l'islamisme. Et à part, évidemment, alors lui, je pense qu'il surestime beaucoup des mouvements qui sont pour moi marginaux, comme par exemple la Nouvelle Droite d'Alain de Benoist ou Douguin. Personne ne sait qui est Douguin en France, le théoricien de très proche de Vladimir Poutine, russe, qui, influencé par Alain de Benoist, la Nouvelle Droite, théorise un anti-occidentalisme profond. Je pense que il a tendance à surestimer des mouvements marginaux. Pour mettre au chausse-pied tout le monde dans le même sac, c'est-à-dire et mettre ses extrêmes dans le même panier. Il va même d'ailleurs jusqu'à faire de Sens commun, le mouvement issu de la Manif pour tous des Républicains, un mouvement antisémite, en disant qu'ils ont participé à Jour de colère en 2013, alors que c'est faux. Donc il y a une erreur factuelle dans ce livre que je voudrais souligner. Sens commun n'a jamais participé à Jour de colère. Donc c'est déjà une erreur journalistique. Et donc on sent qu'il y a quand même cette envie de mettre tous les ennemis dans le même panier. Or, à mon avis, la réalité est plus complexe que ça.
Allez, Valazovski, c'est vrai qu'il s'arrête, Marc Weitzman, sur ce jour du 26 janvier 2014, où retentissent dans les rues de Paris, pour la première fois, dit-il, depuis les années 30, des slogans antisémites dans la bouche de militants d'extrême droite. C'est en tout cas comme ça que les décrit Marc Weitzman. Donc on est déjà au cœur, on va revenir évidemment sur la progression du livre, mais peut-être s'arrêter un tout petit peu là-dessus, parce qu'en effet, c'est vraiment, on va dire, l'axe central autour duquel tourne le livre, cet axe d'essayer de comprendre cette résurgence des actes antisémites en France et de comment ils sont nourris par un terreau classique, j'ai envie de dire, l'antisémitisme d'extrême droite qu'a connu la France évidemment tout au long du XXe siècle et avant, et comment vient se greffer là-dessus et même se rencontrer avec des aspirations communes un antisémitisme islamiste.
Oui, parce que c'est là où quand même il faut dire que le livre a une véritable ampleur, parce que il prend le temps de développer justement chacun de ces événements et d'arriver à trouver des liens, notamment effectivement sur cette haine globale qui monte. Et je pense que non, il met pas tout dans le même sac. Au contraire, il essaie justement de donner à chaque idéologie mortifère ou destructrice sa logique propre. Il essaie de les analyser par rapport à leur contexte justement historique et politique, et donc je pense c'est quand même un livre qui déploie justement une certaine rigueur dans l'analyse, et donc qui essaie d'aller en donnant énormément de faits, de précisions. Il cite effectivement même justement les pamphlets. Il explique que par exemple il y a encore certaines vidéos justement qui circulent sur Internet, etc. Il explique, il donne beaucoup de précisions, et donc effectivement moi je pense qu'au contraire manière, il arrive à trouver une lecture qui effectivement est saisissante, parce que ça nous, c'est effectivement, ça donne un effet de sidération pour le lecteur, parce que effectivement, on apprend d'abord beaucoup de choses, et vous vous rappelez, il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont ressaisis dans leur perspective historique et idéologique, et donc ça dresse quand même effectivement des lignes conductrices pour comprendre les meurtres, pour comprendre les atrocités. Donc je pense qu'il y a un travail quand même assez pédagogique, assez explicatif.
Gilles Massier.
Oui, alors moi je pense que le problème de ce livre, c'est de dire que finalement, être anti-moderne, critiquer la modernité, c'est en gros faire le jeu du djihadisme, un peu simplement. Et il y a quand même, moi, une phrase qui m'a beaucoup choquée dans ce livre, c'est quand il dit que, alors il dit, je le cite, hein, page 464 de son livre, l'atmosphère étouffante dans le pays avant l'élection de 2017 n'était pas due qu'aux attentats. Il était dû aussi à un acquiescement, pour le dire brutalement, un acquiescement perceptible dans une partie de l'opinion, sinon pour la violence terroriste elle-même, du moins pour l'antimodernisme qui la sous-tend et le désir de destruction dont elle se réclame. Et là, il cite pêle-mêle Alain de Benoist, Philippe Muret, Houellebecq et avant eux Baudelaire, Balzac, de Maistre, comme si finalement l'antimodernisme français avait créé un fond culturel en France qui nous crée de la sympathie pour les djihadistes. Je crois que c'est absolument faux de A à Z. Et on peut pas dire qu'il y avait un acquiescement sourd aux attentats en France terroristes dans le pays. Je crois que c'est complètement faux et même délirant de dire ça.
Alors, il va quand même, pour appuyer cette thèse, en effet, Eugénie Bastier, que vous soulignez à l'instant, Marc Weitzman, donc dans Un temps pour haïr, publié chez Grasset, il va chercher des figures historiques, comme vous l'avez dit tout à l'heure, parfois peu connues, voire totalement oubliées. Alors, il y a des figures actuelles, évidemment, comme Saïd Oujibou, et il y a une figure historique, comme celle d'Ismaïl Urbain, qui était un intellectuel proche de Napoléon III, et qui nous rappelle Marc Weitzman, on fait toute l'histoire, a incité la politique arabe de Napoléon III contre l'Empire ottoman à l'époque, et donc à l'origine de cette idée selon laquelle on pourrait s'appuyer sur l'islam, la France pourrait s'appuyer sur l'islam, évidemment d'une certaine façon, et avoir une certaine sympathie pour ses formes aussi les plus radicales, mais tout en la tenant à distance, évidemment, notamment dans le contexte algérien, de la citoyenneté française. Et Marc Weitzman y voit là les débuts, les prémices, en quelque sorte, de ce qui va donner la situation actuelle, Alyosha.
Oui, là c'est vrai qu'il y a vraiment des parties très très distinctes, hein, donc je pense qu'il faut aussi remettre à chaque fois les formules dans le contexte et dans le moment où il le dit dans le livre, parce que c'est vrai que les perspectives historiques permettent dans différents espaces géopolitiques, que ce soit aussi la question de l'Afghanistan, la question effectivement algérienne et un certain nombre de lieux ou d'espaces effectivement historiques et géopolitiques, permettent effectivement de saisir comme ça justement des ramifications, des explications. Et à chaque fois au service, je pense, d'une lecture politique pour penser le temps présent et pour essayer justement de donner, par rapport à des erreurs politiques qui ont pu être faites ou des ratés de prise de conscience des risques et des difficultés qu'il pouvait y avoir à ces moments-là, pour essayer de dire comment la France peut justement aujourd'hui repenser sa propre histoire, son propre parcours, etc. Et donc il y a quand même ce livre a le mérite justement de faire réfléchir et je pense qu'il peut il devrait servir aussi aux politiques pour pouvoir penser cette question.
Vous l'avez trouvé convaincant, puisque Eugénie, elle, manifestement, n'a pas trouvé ça très convaincant dans sa démonstration, on va dire, de la rencontre, des intérêts communs entre l'islamisme radical et ce mouvement qu'il appelle rouge-brun ou anti-moderne. Marc Weitzman ne se contente pas d'aller dans l'histoire. Hein. Il va montrer comment aujourd'hui, il y a des rencontres entre les mouvements salafistes et certaines franges du Front National à l'époque.
C'est vraiment marginal.
C'est ce qu'emploie Marc Weitzman. Vous savez, on dit aussi que les terroristes ne sont que marginaux au sein de l'islam. Ça n'empêche pas d'en discuter aujourd'hui et de leur donner l'importance qu'ils ont. Ali Chaval.
Ah oui, moi ça m'a convaincu parce que c'est une analyse qui rend justement des choses qui peuvent être opaques ou simplement effectivement non pas anecdotiques, mais il fait l'effort de justement de créer des liens et des explications pour comprendre que justement la brutalité qui arrive dans l'événement et qui saisit la société, etc., permet aussi d'avoir justement dans le débat géopolitique qui est aussi complexe, puisqu'il prend position par exemple contre Olivier Roy, il prend position aussi contre, voilà, donc il y a quand même un certain nombre de débats auxquels il participe, et je pense qu'il apporte des arguments effectivement très convaincants sur ce plan.
Alors juste pour rappeler à nos auditeurs qui seraient pas familiers sur cette querelle, on va dire, entre Gilles Kepel et Olivier Roy, voilà, c'est un peu la querelle, les deux extrêmes, les deux bouts, comment dire, de l'interprétation du djihadisme français aujourd'hui. Olivier Roy serait plutôt le tenant d'une thèse selon laquelle on a une radicalisation politique, en fait, qui prend cette source
dans l'islamisation de la radicalité,
voilà, et Gilles Kepel, lui, radicalisation de l'islamisme, voilà. Donc Gilles Kepel donne une plus grande importance au côté religieux, on va dire, du basculement dans le djihadisme.
Oui, c'est ça. Et en fait, il s'érige contre Olivier Roy, qui fait de la perte de sens, la perte de sens en Occident, la clé pour comprendre la radicalisation, en disant que finalement l'Orient serait un peu l'alternative à la décadence du monde moderne, et l'islamisme violent serait finalement une réaction à la grande inculturation, ce qu'il appelle l'acculturation. Et lui, finalement, j'ai l'impression que Weizmann donc s'oppose à Olivier Roy, mais il essaie presque de sauver, j'allais dire, la société de consommation libérale, en disant finalement tout va très bien. Et ceux qui cherchent du sens, enfin, vous dire que notre société n'a pas de sens, c'est quasiment faire le jeu des djihadistes, ou en tout cas rentrer dans cette dynamique-là. Et je trouve qu'il a, moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment choqué dans ce livre, c'est la manière dont il parle d'un texte de Sébastien Lapacq, donc journaliste au Figaro, qui a écrit un texte sur la mort d'Arnaud Beltrame dans les pages des débats opinion du Figaro au lendemain de la mort d'Arnaud Beltrame,
vous participez.
Exactement, et où donc ce texte. Sébastien Lapacq parlait du sacrifice gratuit d'Arnaud Beltrame, qui est étranger aux besoins et aux besognes de la Startup Nation. Non seulement il les contrarie, mais il les condamne. Et en fait, Weizmann fait de ce texte de Sébastien Lapacq une exaltation du sacrifice d'un martyr qui se rapproche de l'exaltation que font les djihadistes du martyr. Et je trouve qu'il dit qu'en gros, Sébastien Lapacq fait quasiment l'éloge du martyr comme le font les djihadistes. Et il les rapproche les deux. Et je trouve ça extrêmement choquant parce qu'on ne peut pas justement... Enfin, c'est ne pas comprendre justement tout ce qu'a voulu dire Sébastien Lapacq qui est d'un point de vue chrétien, que la différence justement entre Beltrame et un djihadiste, c'est que ce sacrifice est gratuit. Qui a une espèce de... Oui, il y a une noblesse et un honneur à se sacrifier pour sauver la vie de quelqu'un d'autre. Ça n'a rien à voir. Cette exaltation du sacrifice n'a rien à voir avec l'exaltation, le fait de donner la mort à des innocents. Et je voudrais rappeler cette phrase d'Élie de Saint-Marc, le résistant, qui disait « Si on doit un jour ne plus comprendre comment un homme a pu donner sa vie pour quelque chose qui le dépasse, ce sera fini de tout un monde et peut-être de toute une civilisation. » Et j'ai l'impression que Marc Weizmann ne comprend pas cette phrase.
Élite Saint-Marc, ça nous renvoie vers l'histoire de l'Algérie également, oui. Dont on va parler dans quelques instants, Alyosha Wald-Lazowski, juste sur ce que vient de dire Eugénie Bastier, puisque en fait ça s'inscrit dans toute une réflexion de Marc Weizmann, encore une fois, il faut l'inscrire dans son contexte. Il a toute une réflexion sur les réactions à la fois d'un Éric Zemmour ou d'une Virginie Despentes à la suite des attentats, qui sont des réactions qui peuvent surprendre, et surtout au moment où elles ont eu lieu, où l'un et l'autre disent qui leur amour, leur admiration face à ces jeunes hommes qui sont prêts à donner leur vie pour leurs convictions. Et donc Marc Weizmann, évidemment, essaye de comprendre d'où ça peut bien venir.
Oui, pour lui c'est une lecture sur la fascination pour la pulsion de mort ou pour le morbide. Alors effectivement, la distinction que vous faites, évidemment, on ne peut qu'y soustraire, mais ça, c'est vrai que la dimension philosophique est forcément très complexe, puisque il y a une sorte là aussi de double positionnement entre d'un côté la transcendance et de l'autre le nihilisme. Et c'est vrai que il faut aussi avoir une réflexion, disons, de nature philosophique sur ce qu'est la transcendance, ce qu'est le nihilisme, ou aussi définir avec précision le débat entre modernité ou antimodernité. Donc il y a aussi dans ces pages-là, alors ça demanderait, le livre fait quand même 500 pages, et il faudrait à ce moment-là... Non mais c'est vrai que ça ouvre des perspectives, en tout cas de réflexion, sur qu'est-ce que ça signifie la transcendance, qu'est-ce que ça signifie le nihilisme, le débat modernité-antimodernité, qui effectivement peut remonter au 19e ou même avant. Donc là, on n'est plus dans un contexte sociopolitique, on est plutôt dans une réflexion, je pense, philosophique, mais qui s'appuie effectivement sur un certain nombre de prises de position, comme le texte de Virginie Despentes qu'il cite, ou des choses comme ça, qui demandent là aussi finalement un éclairage sur le sens philosophique des notions qui peuvent être mobilisées.
Là encore, je trouve que citons les phrases qui rapprochent de Virginie Despentes, qui a écrit pris une tribune dans les Inrock suite à l'attentat de Charlie Hebdo où elle a dit sur les frères Kouachi, j'ai aimé leur désespoir. Et ensuite, elle a dit qu'elle s'identifiait donc au tueur et que la seule qu'elle voyait dans ce geste la seule façon qu'il leur soit accessible de mourir debout. Alors Zemmour, lui, c'est une autre phrase qu'on lui reproche, c'est qu'il a dit dans une interview de Causeur, je respecte des gens prêts à mourir pour ceux en quoi ils croient, ceux dont nous ne sommes plus capables. Et je trouve quand même qu'il y a une différence entre ces deux phrases. Je dis pas qu'il y en a une qui est plus excusable que l'autre, mais il y en a d'un côté, il y a une compassion, une forme de pitié pour les tueurs, et de l'autre, une forme d'admiration, ce qui est quand même pas la même chose. L'admiration et la compassion, c'est peut-être même des valeurs opposées. Donc est-ce qu'on peut mettre dans le même sac quelqu'un qui a de la compassion pour les tueurs et quelqu'un qui a de l'admiration ce sont des valeurs différentes. Donc j'ai du mal à voir une continuité entre ces deux postures, sachant que d'ailleurs chez Éric Zemmour, elle est vraiment pas centrale, c'est une phrase et il en fait, j'ai l'impression qu'il tire le fil de cette phrase comme si elle était représentative de tout un mouvement dans la société.
Pas plus que chez Virginie Despentes à vrai dire, mais c'est aussi le jeu. Mais je voudrais pas qu'on termine notre discussion sur ce livre de Marc Weitzman, Un temps pour haïr, en faisant croire aux auditeurs que c'est un livre uniquement théorique, puisqu'on l'a dit, il est aussi beaucoup de longues pages, on va dire plus journalistique, où il y a des retranscriptions d'écoute récupérées par Marc Weitzman. Il y a évidemment ce à quoi il a pu assister lors des procès qu'il a suivis, notamment du frère de Mohamed Merah, le procès du frère de Mohamed Merah pour lequel il avait écrit un long article dans le Nouveau Magazine Littéraire il y a quelques temps, Alyosha Wald-Lazowski. Il y a là aussi un travail journalistique très important où il y a une réflexion sur, par exemple, sur cette notion de taqiya, cette notion de dissimulation qui est au cœur du djihadisme et de l'islamisme radical en France.
Ah oui, non, mais ça c'est vrai que c'est très juste et on apprend évidemment beaucoup de choses sur ces questions entre le dérèglement intime. Il y a beaucoup d'interrogations. Je pense que c'est un livre qui se lit à plusieurs niveaux, qui peut poser là des questions aussi philosophiques sur, évidemment vous l'avez dit en préambule, sur l'identité et sur la question comment on peut être et ne pas être soi-même et comment on peut être aussi dans l'artifice, la dissimulation, etc. Et comment le dérèglement intime ou psychologique peut être récupéré par l'idéologie et par des pseudos ou des connaissances historiques qui ne sont pas du tout les siennes. Donc il y a une vraie réflexion effectivement qui est intéressante et qui donne des incarnations, des cas particuliers. Donc oui, ça c'est la dimension enquête et au fur et à mesure effectivement de cette série de portraits très précis, on apprend des choses sur les individus dont ensuite on peut effectivement faire des réflexions plus théoriques, plus historiques, plus politiques.
Alors j'ai trouvé ça vraiment, ce qui m'a vraiment intéressé dans ce livre, c'est vraiment justement cette galerie de portraits, tous ces dialogues qui sont restitués, par exemple le dialogue entre le frère de Mohamed Merah et sa mère dans la prison où il est enfermé actuellement, les conversations téléphoniques de Aïd Boulhassen, la cousine de Abaoud. Il y a au moins 20 pages ou 30 pages de description de ces conversations et on voit vraiment cette espèce de fille à la dérive complètement. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est... Et il a raison là-dessus, je pense qu'il n'est Marc Weitzman n'est ni dans l'explication sociologique ou sociale de la violence terroriste, c'est-à-dire en disant que les auteurs d'actes terroristes sont finalement des victimes du chômage, du racisme, etc. Il n'est ni dans l'explication purement religieuse, ce sont finalement des gens qui ont véritablement une idéologie religieuse, etc. Finalement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il développe cette espèce, ce qu'il appelle la vision thermodynamique de la violence, et finalement le fait que il y a un fond culturel, en tout cas la propagande islamiste, et des individus fragiles, et finalement ce fond permet à ces individus fragiles de passer à l'action.
Et donc qui rencontre aussi une situation en France, puisqu'on parlait de ce qu'il dit sur le postcolonialisme et le rapport à l'Algérie, à la guerre d'Algérie, l'importance aussi de la décennie noire des années 90 qui a constitué les réseaux islamistes en France.
Oui, en fait, c'est toujours le lien entre l'individu et le collectif, c'est-à-dire c'est un peu la question qu'on se pose à chaque attentat. Est-ce que c'est un acte individuel ou est-ce que ça représente finalement toute une idéologie collective? Et lui vraiment essaie d'articuler les deux. Il dit que c'est l'expression individuelle et pulsionnelle d'un cliché collectif. Donc il articule à la fois donc ce fond culturel, par exemple, qui va faire un fond culturel d'antisémitisme qui va se répandre dans la population arabo-musulmane, notamment en France, en fait, l'antisémitisme, on baigne dans l'antisémitisme, mais au bout d'un moment, il faut avoir le jeu sociopathe, c'est lui qui va passer à l'action, et donc il y a une espèce de d'articulation entre le jeu sociopathe et le jeu historique, ce qu'il appelle les deux jeux. Et donc c'est intéressant, je trouve, que cette articulation entre l'individuel et le collectif, à mon avis, c'est ce qui est le plus intéressant.
Rapidement,
en s'appuyant surtout sur les mots utilisés justement dans cette galerie de portraits. Donc c'est un livre qui donne vraiment à voir et à réfléchir, et surtout à s'intéresser aux mots qui sont utilisés pour comprendre l'idéologie qu'il y a derrière.
Et qui n'invite pas forcément à chercher de causes rationnelles au djihadisme, puisque tout commence avec l'antisémitisme qui rencontre donc, selon Marc Weitzman, un terreau fertile en France. Et donc, évidemment, ça n'appelle pas à chercher forcément de la rationalité dans tout ça. Marc Weitzman, Un temps pour haïr, c'est publié chez Grasset.